bonsoir. Plusieurs recommandations ont été formulées lors du 5e sommet Union africaine et Union européenne tenu à Abidjan le 30 novembre dernier. Les dirigeants des deux continents ont souligné la nécessité de lutter contre les passeurs et les trafiquants des migrants. Au sujet de la paix et sécurité, les deux continents conviennent de soutenir les efforts en cours pour lutter contre le terrorisme. Quelle analyse faire de ces recommandations? C'est la question de l'émission et nous en parlons avec Maître Guillaume Mangiolo. Il est écrivain essayiste en philosophie politique, diplomate politique pendant 10 ans au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et régionale. Bonsoir Maître Guillaume Mangiolo.
Bonsoir Monsieur Guimaté.
Alki Tengue, il est stratège et analyste économique. Bonsoir Monsieur Alki Tengue.
Bonsoir Guimaté.
Et Timothée Chaombo Choucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Bonsoir, M. Timothée Chaombo Choucha.
Bonsoir, cher ami Guimati. Bonsoir à tous les invités de Radio Capi.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Capi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le 5e sommet Union africaine et Union européenne s'est refermé jeudi 30 novembre à Abidjan par l'adoption d'une déclaration générale et d'une déclaration sur la Libye. Les dirigeants africains et européens ont décidé de se fixer 4 priorités stratégiques pour les années à venir. Les domaines concernés par ces priorités sont l'éducation et la formation, la paix et la sécurité, les investissements ainsi que la migration et la mobilité. Les détails avec Alain Hirong.
En tête des priorités des dirigeants africains et européens figurent l'éducation et la formation. Ils annoncent qu'ils sont d'accord pour augmenter leurs efforts en ville et dans le monde rural en vue d'assurer un accès universel à l'éducation, particulièrement pour les filles. Deuxième priorité, les actions en faveur de la paix, de la sécurité et de la gouvernance. Avec une petite phrase dont il faudra suivre les développements, je cite, « Nous soutiendrons les efforts en cours pour combattre le terrorisme, y compris le soutien du G5 Sahel. » Fin de citation. Cette force régionale en cours de mise en place et qui manque pour l'instant de financement. Troisième priorité, mobiliser les investissements pour créer une croissance économique qui profite au plus grand nombre. Quatrième priorité, la migration et la mobilité. En plus de lutter contre les passeurs et les trafiquants, ainsi que de dissuader l'immigration irrégulière, Européens et Africains soulignent aussi la nécessité de faire plus pour créer des opportunités de migration régulière et pour faciliter la mobilité des entrepreneurs, des étudiants et des chercheurs.
Merci à vous Alain Hirong, Maître Guillaume Mangiolo, écrivain essayiste en philosophie politique, diplomate politique pendant 10 ans au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et régionale. Les pays africains et européens se sont retrouvés à Abidjan le 30 novembre dernier lors du 5e sommet. Et comment vous analysez cette initiative?
Bon, je suis un peu sceptique par rapport à ce qui a été dit, dans la mesure où nous sommes au 5e sommet. Les 4 précédents ont donné quoi exactement en termes de résolution et puis de la mise en œuvre de ce qui a été dit. J'ai eu l'opportunité de participer à une série de réunions de la même nature, aussi bien les sommets entre les pays africains et les pays européens, sans compter ce qui s'est passé au niveau, notamment avec l'Inde ou avec la Chine. Il est vrai que lorsque nous sommes dans les négociations, dans les sommets qui réunissent à la fois Chine-Afrique ou Inde-Afrique, ou dans les cas de la TICAD avec le Japon, on a des résultats directs. Mais les rapports avec l'Occident, en fait, avec l'Union européenne, ce sont des rapports pour moi jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas produit leurs fruits. Dans la mesure où, d'un côté, on nous dit, voilà, il y a un problème de terrorisme, mais ça vient d'où ce terrorisme? Il y a ce qu'on appelle les droits d'ingérence qui a été opéré par les mêmes entités politiques que sont les Européens au niveau de l'espace du Moyen-Orient, et on n'a pas tiré les conséquences. De la même façon que ce qui a été fait en Libye, par les mêmes entités politiques au niveau de l'Europe, on voit maintenant les conséquences. Et bien ces conséquences-là, qui en sont aujourd'hui tributaires, ce sont les Africains. Ça s'est passé sur le sol africain, du fait des Européens, d'une décision qui n'était pas conforme à ce qui espère, aux aspirations en fait, de l'Afrique. Les conséquences sont aujourd'hui vécues par les Africains. De la même façon, lorsqu'ils prennent des dispositions particulières pour pouvoir accueillir notamment les Syriens, et plus ou moins 1 million, alors que les Africains se noient quasiment dans la Méditerranée, ils organisent la fermeture de la porte aux Africains. Pourquoi cette façon de faire les choses, cet arbitraire permanent par rapport à ça? Et puis après, ils viennent nous expliquer comment il faut lutter contre le terrorisme qui a été provoqué globalement par la mégestion, l'ingérence tonitruante dans les affaires internes des pays du Moyen-Orient et y compris aussi en Afrique. On voit aujourd'hui les conséquences. Il me semble que tout est faux depuis le départ entre l'Europe et nous-mêmes et qu'il faut revoir les choses. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui soit nécessaire parce que toutes ces messes-là, finalement, ne servent pas à grand-chose si ce n'est à faire du show.
Maître Mandiolo, vous êtes donc sceptique quant au résultat qui est produit, n'est-ce pas, ces sommets, et vous semblez dénoncer la politique, n'est-ce pas, des pays européens vis-à-vis des Africains. Investir dans la jeunesse pour un avenir durable, c'était ça, n'est-ce pas, les thèmes de ces sommets. Est-ce que ce n'est pas un thème révélateur du déficit des politiques cohérentes des pays africains à l'endroit de leur jeunesse?
Oui, mais c'est pour ça qu'il y a une prise de conscience collective au niveau de l'Afrique pour faire les choses autrement. Il ne faut pas compter sur l'Europe. Parce que l'Europe, regardez très bien dans les transactions qu'on a avec l'Europe, dans le partenariat qu'on a avec l'Europe, il n'y a presque pas la notion transfert des technologies ou des compétences. Ça n'existe pas. C'est l'aide pour ceci, l'aide pour celle-là, soutien à ceci, soutien à celle-là, réparation de ceci. Il n'y a pas ce qui est nécessaire pour nous. Lorsqu'ils font les plans Marshall avec les États-Unis d'Amérique, l'investissement vient, donc on amène l'argent et la technicité pour donc travailler sur les universités, les institutions de production, ainsi de suite et tout ça, et de sorte à ce que eux-mêmes se prennent en charge. On ne vient pas pour assister les gens ad vitam aeternam. Or, c'est le cas vis-à-vis de nous. Donc, on ne peut pas se contenter de ce type de rencontres au motif que, bon, ça va sauver l'Afrique, ça ne peut pas sauver l'Afrique. Il appartient aux Africains de prendre conscience, et d'ailleurs, dans les rapports qu'on a aujourd'hui avec les pays d'Asie, notamment l'Inde et la Chine, et dans une mesure aussi assez intéressante, le Japon, il faut faire les choses autrement. Les partenaires européens, qui est intéressant, mais qui n'est pas forcément les bons partenaires aujourd'hui, les preuves sont là. On ne peut pas payer lourdement la Libye, certains au niveau de la Libye, pour empêcher que les Africains traversent. Dans le même temps, on permet aux Syriens de traverser et par millions pour s'installer en Europe. Pourquoi cette démarche de cette nature-là? Alors, ils viennent pour nous expliquer, voilà, il ne faut pas aller en Europe. Mais nous, on peut venir, les autres peuvent venir en Europe. Le monde entier peut aller en Europe, sauf les Africains. Et il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Et pourquoi cela reste ainsi?
Puisque vous évoquez cette question des migrants, et les dirigeants des deux continents ont souligné la nécessité de lutter contre les passeurs et les trafiquants des migrants. Et là, on se rend compte qu'ils s'attaquent aux effets. Est-ce qu'il n'aurait pas été rationnel de pouvoir identifier et de s'attaquer, n'est-ce pas, aux causes à la base de ces phénomènes? Et parmi les causes, on cite notamment les injustices sociales dans les pays africains. Vous avez évoqué, n'est-ce pas, une prise de conscience des pays africains. Pourquoi on n'arrive pas à solutionner ces problèmes comme les injustices sociales jusqu'à aujourd'hui en Afrique?
Je pense qu'il faut compartimenter les choses. Il y a d'un côté les droits de gérance qui a créé énormément de souffrances au Moyen-Orient. Ça a créé notamment Al-Qaïda, ça a créé l'État islamique, et avec toutes les attaques militaires de ce côté-là, ça s'est déversé sur l'Afrique. Droits d'ingérence et conséquences. On n'a pas résolu ça. Il est vrai aussi qu'en Afrique en général, la gestion est très très mauvaise. La gestion est mauvaise. Elle est mauvaise pourquoi? Parce qu'il y a une série des zones d'influence qui sont gérées par les mêmes personnes, les mêmes pays. Et ces zones d'influence, il faut le garder, notamment dans la partie francophone, surtout en Afrique centrale ou en Afrique francophone. La mainmise de la France, on parle aujourd'hui du CFA, des tas de choses et tout ça, et du soutien à des régimes qui, normalement, ne sont pas des régimes qui sont en faveur des populations. Et on ne peut pas à la fois soutenir ce type de régimes et avoir la même mise sur l'essentiel des matières premières de ces pays-là, et venir expliquer que, voilà, il faut soutenir la jeunesse et tout ça. Ça ne tient pas la route. En fait, on ne peut pas rester aveugle jusqu'à ce niveau-là. Au jour d'aujourd'hui, moi, par exemple, à mon niveau, je pense que je vais clôturer là-dessus, j'ai l'obligation en tant que politique à la fois, en tant que chercheur, en tant que penseur, de dire aux gens qui sont à Luambo, à Kalamambouji, à Kalumbu, à Misaku, à Mbumbashute, au fin fond ici du Kwilu, à Idiofa, à Bagata et ailleurs, pour leur dire qu'effectivement, nous devons penser autrement. La première chose à faire au jour d'aujourd'hui, c'est que les pays africains doivent apprendre à investir d'abord dans la recherche, dans les compétences, dans l'éclairage des uns des autres. On ne peut s'en sortir que par nous-mêmes. Il n'est pas possible de considérer qu'effectivement, nos matières premières, on pourrait les vendre, transformer facilement, parce qu'ils ne peuvent pas nous aider à les transformer sur place. À ce moment-là, il perdrait largement l'essentiel. Imaginez-vous l'Europe aujourd'hui sans uranium. C'est quasiment impossible. Sans pétrole, c'est quasiment impossible. Donc, par conséquent, toutes ces choses-là, sans café, hein, sans tout un tas d'éléments qui viennent obligatoirement de l'Afrique. Nous sommes la réserve de matières premières et par conséquent, nous avons l'obligation de les transformer ici. Donc, et quand je regarde un peu les budgets qui sont mis dans l'enseignement,
merci,
ça pose problème. Et malheureusement, dans ces secteurs-là, il faut mettre le poids totalement de sorte à ce qu'on puisse travailler dorénavant d'égal à égal. Mais bon, s'il faut recevoir des leçons en disant, voilà, on va vous aider, on va investir, ben, ils ne mettent pas grand-chose. D'ailleurs, là-dessus, je pense qu'il faut suivre les discours du président ghanéen. Ce qu'il a dit, c'est ce qui m'importe le plus.
Merci, Timothée Tshaombo Choutcha, chercheur en coopération, prévention et résolution du conflit à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Comment vous analysez les recommandations formulées à l'issue du 5e sommet Union africaine et Union européenne, c'est notamment la lutte contre les passeurs et les trafiquants des migrants?
Oui, cher ami, d'abord, il faut dire que les résolutions du 5e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne rappellent les concepts que nous sommes en gestation, que nous sommes en train de développer ici à l'Université catholique de Louvain sur le paradoxe de la problématologie de la réponse encore en gestation. C'est-à-dire que les réponses qui ne résolvent pas le problème ou défi de départ, ou qui créent des réponses qui créent pratiquement, qui causent encore des problèmes graves, c'est les défis initiaux. Traditionnellement, lorsqu'on parle d'une réponse à un défi, c'est que la réponse va mettre un arrêt à ce défi, à ce problème. Mais le paradoxe ici, c'est que vous allez trouver que les réponses qu'on apporte n'apportent pas une solution. Pourquoi est-ce que cela, comme ça, avant que cela arrive effectivement à votre réponse? C'est que, il y a d'abord des soucis, c'est d'une bonne qualification de défi. La deuxième chose, c'est que il y a la partialité ou la complicité des acteurs censés qualifier ces faits, ces défis, et censés apporter une solution. Et puis, il y a un troisième élément, il y a un quatrième, d'abord sur l'incompétence des acteurs, exclut ce cas dans le cadre des chefs d'État et des chefs de nation, mais aussi les facteurs temporels et évolutifs. Exclut les deux derniers. Dans le cas d'espèce, nous tombons dans ce que j'appelle le déficit d'une bonne qualification des faits. Pourquoi? Parce que ça me conduit au deuxième point qui dit de la partialité ou de la complicité des acteurs qui sont censés à qualifier ce fait. D'où le paradoxe. C'est que la personne des chefs d'État, dans l'occurrence, sont censés apporter une solution, ils doivent étudier, ils doivent qualifier, sont des personnes qui créent des problèmes. Quels sont, lorsque je consulte l'Office des étrangers en Belgique ou en OFRA en France, les premières causes de déplacement, d'immigration des populations, c'est d'abord et avant tout l'instabilité politique. Les guerres qui sont causées par les chefs d'État qui veulent rester en fonction. Deuxièmement, les gens fuient parce qu'il n'y a pas de débouchés, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de perspective pour la jeunesse. On a parlé de la jeunesse qui est l'avenir d'ailleurs du continent africain. Il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse et donc elle est obligée, avec toutes les compétences, de partir vers d'autres cieux où il y a des opportunités. Le troisième élément, vous trouverez dans le cas de sexe, des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. J'ai parlé d'instabilité, j'ai parlé de cette situation de manque d'emploi, mais aussi les détournements qu'il y a dans la gestion. Mon frère Maître Majolo l'a soulevé, la mauvaise gestion, mais il est allé dans l'aspect de la mauvaise gestion des zones d'influence de l'Union européenne, sans épingler le fait que les chefs d'État africains sont avant tout responsables de la déstabilisation de la situation sociale, économique et politique des Africains. Il faut tout simplement regarder autour de nous. Vous avez au Congo quelqu'un qui a fini ce mandat et qui voudrait rester en fonction. L'Afrique des Grands Lacs est un exemple qui est en cours et ils n'ont pas besoin de le démontrer. Un autre élément, je traverse l'autre côté de la Méditerranée. Vous avez, et c'est pour ça que je parle de la mauvaise qualification et des acteurs qui sont allés en Côte d'Ivoire. Vous avez la France qui a un peu stabilisé avec l'OTAN, la Libye. Parce que la réponse était que nous puissions, faire partie de Kadhafi qui était entre guillemets dictateur. Alors la réponse qu'ils ont apportée en Libye, a-t-elle apporté, amené la stabilité, le développement, le progrès? Non. Donc la problématologie de la réponse, le paradoxe de la problématologie de la réponse a pris son sens lorsque vous avez des acteurs qui, chaque fois complices ou incompétents, arrivent eux-mêmes à qualifier le fait pour lequel ils sont responsables et on leur charge la responsabilité de trouver des réponses. depuis des décennies. Vous avez des Paul Biya, vous avez des Obiang Nguema, vous avez des Kabila, vous avez des Bongo, des Yadema qui sont au pouvoir dans une incompétence totale, dans la défaillance totale des institutions. Mais ce sont des chefs d'État qui doivent trouver solution aux problèmes qu'ils ont causés. Un troisième élément que je voulais soulever, l'Union européenne, et là je rejoins pratiquement Maître Majolo, l'Union européenne est en train d'allouer 200 millions d'euros chaque année pour remettre au gouvernement de Libye afin de stopper les migrants. Je me pose des questions, un questionnement d'ailleurs. On donne cet argent à qui? Parce qu'en réalité, en Libye, il n'y a pas qu'un seul gouvernement, il y a tout le monde qui peut s'acheter des Kalachnikov et avoir un quartier Niger. Il va attraper des migrants de pratiquement de l'Afrique noire et les gérer. Et à ce moment, l'argent, l'Union européenne, avec le président Macron et tout, Mme Merkel et tout le monde, ils remettent cet argent à qui? Il vient réellement l'argent qu'on remet en Libye? C'est tout le questionnement. Donc, les acteurs de l'autre côté, de part et d'autre de la Méditerranée, sont des gens qui sont eux-mêmes responsables de la situation qu'on a. Parce que moi, j'appelle avec mon collègue le paradoxe de la problématologie de la réponse. Et malheureusement, pour moi, c'est une très grande promenade qui a eu à Abidjan. Certes, que le centre d'économie de la République de la Côte d'Ivoire a dû monter avec le protocole et la consommation qui a eu dans les 48 heures. Mais ça n'apportera pas grand-chose. Au contraire, oui.
Oui, vous évoquez cette question liée, n'est-ce pas, à la bonne qualification des défis et la qualité des personnes, des acteurs censés qualifier ces défis. Mais nous avons cette qualité des dirigeants qui sont là. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'ils sont incontournables et qu'il faut composer, qu'on est forcé de composer avec eux?
Oui et non. Oui, parce qu'il y en a qui sont légaux, qui sont là, qui sont en cours de mandat. Et je rejoins une fois de plus mon coordinateur, Maître Majolo, qui a parlé des zones d'influence. Vous avez certaines zones d'influence, la zone anglophone qui évolue très bien, mais la zone francophone est une zone qui devient l'îlot de tous les chefs d'État, dictateurs et qui vont rester au pouvoir indéfiniment. Le problème, c'est qu'il nous faut, et d'ailleurs dans plusieurs résolutions qu'ils ont prises, même des priorités, on note qu'en Afrique, l'Afrique est une destination d'avenir, déjà une destination d'avenir. Il faut une autre gouvernance, il faut requalifier, refonder toute la gouvernance de l'Afrique.
Merci, Timothée.
Les chefs d'État, pour la plupart d'entre eux, ne sont plus capables d'offrir une issue sortie à notre zone.
Merci. Merci, nous avons compris. Alki Tengue, stratège et analyste économique, 5e sommet Union africaine et Union européenne. Quelle est votre analyse, vous en tant que stratège, de ce sommet qui s'est tenu à Abidjan le 30 novembre dernier?
Merci beaucoup, Guy Maté. Je crois que je vais revenir sur deux, trois choses. La première, c'est que nous devons assumer nos responsabilités en tant que peuple. Je parle des peuples africains et je me dis, c'est notre responsabilité d'établir des politiques publiques qui permettent au continent d'être compétitif et donc de retenir les meilleurs d'entre nos enfants. Si aujourd'hui nos enfants quittent le continent et qu'ils vont sur d'autres continents, c'est qu'il y a un problème chez nous qui les chasse. Mais je pense simplement que nous devons être en mesure de regarder ça. Lorsque vous regardez l'émigration entre l'Afrique et l'Europe, c'est exactement la même chose que nous avons ici à l'intérieur entre le rural et l'urbain. De manière naturelle, si vous n'offrez pas de perspective aux gens dans le milieu rural, ils migrent vers le milieu urbain. Et s'ils ne trouvent pas leur bonheur au milieu urbain, ils migrent vers les zones inconnues, parce que rien ne leur dit qu'en Europe, ils auront nécessairement une bien meilleure vie. En fait, mais lorsque vous regardez cette grande réunion entre l'Union européenne et l'Union africaine, c'est une question de géopolitique. L'Europe essaie de résoudre ses problèmes, c'est pour ça que les dirigeants européens sont élus. Il s'agit pour les dirigeants africains de trouver des mécanismes pour aussi résoudre leurs problèmes. Je ne crois pas que les questions de géopolitique qui ont une incidence majeure sur les questions de géoéconomie, c'est pour ça qu'on est en train de parler des avantages que les Européens essayent d'avoir ici. En fait, en réalité, ils essaient de contrer la poussée de la Chine. Je ne crois pas que nous soyons, nous, à même de pouvoir résoudre des problèmes en Europe, comme je ne crois pas que les Européens soient à même de résoudre les problèmes chez nous. Il s'agit pour nous d'avoir des dirigeants qui assument par des politiques publiques et par une gestion et une gouvernance sérieuse toutes les modalités nécessaires pour être en mesure de mettre à contribution nos enfants. Il n'est pas acceptable que nos élections soient organisées avec l'argent des autres. Il n'est pas acceptable que la santé chez nous soit financée par les autres. Il n'est pas acceptable non plus que la nourriture, y compris la nourriture de base, soit dans le cadre des réponses humanitaires fournies par les étrangers à tout moment. Et ça, ça leur donne une position de supériorité qui leur fait penser que ils peuvent réfléchir à notre place et venir nous dire ce que nous avons à faire. À mon avis, la place des Africains est en Afrique. Et il est important que nous convertissions cet avantage comparatif de dividendes démographiques en avantage comparé qui peut nous permettre d'avoir ici chez nous la possibilité de quantifier les bénéfices.
Et comment vous analysez ces deux perceptions? Vous avez suivi Maître Madiolo qui semble, n'est-ce pas, fustiger la politique des Occidentaux, une politique qui a des conséquences néfastes sur les pays africains. Et de l'autre côté, vous avez Monsieur Chuchat Timothée qui lui fustige ce problème là de la bonne qualification des défis et la qualité des acteurs qui doivent faire cette qualification. Comment vous analysez ces deux perceptions?
Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes entre deux grands camps, un camp de pays riches et un camp de pays pauvres. Un camp des détenteurs du savoir scientifique et un camp des consommateurs du savoir scientifique. Cette relation, tant qu'elle n'aura pas bougé, il sera très difficile pour nous de penser qu'on peut parler d'égal à égal. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en situation financière extrêmement faible qui permet justement que ces gens pensent à un moment ou à un autre que nous sous-traitons notre pensée chez eux. Il n'est pas logique que quelqu'un vienne nous rappeler qu'il faut que nous formions correctement nos propres jeunes et qu'on leur donne des opportunités chez nous. C'est le béaba de la gestion et de la gouvernance publique. Mais s'ils se permettent de le répéter, c'est parce qu'ils ont l'impression que apparemment nous ne comprenons pas que c'est la base même de la prospérité partagée. Et je crois simplement que cette arrogance que nous avons des fois à pouvoir vouloir jeter la responsabilité sur les autres et cache très mal notre incapacité à pouvoir résoudre nos propres problèmes. Il n'est pas admissible de penser que vous mettiez vos propres enfants en danger et que le voisin vienne vous le répéter. Et je crois que nous devrions fournir un effort pour regarder nos problèmes en face. Et l'absence de compétitivité des nations africaines pose ce véritable problème de l'immigration, malheureusement, clandestine.
Nous devons avoir le courage de regarder nos problèmes en face, comme vous le dites. Et ce sommet coïncide avec la découverte en Libye des camps où les Noirs sont vendus comme des esclaves. Et les images de CNN qui ont révélé cela ont suscité le tourment, la colère et la désapprobation de beaucoup de dirigeants à travers le monde. Pourtant, M. Al-Kitenge, c'est un secret de Polichinelle. On savait qu'à travers le monde, dans beaucoup de coins à travers le monde, les phénomènes d'esclavage étaient encore de mise.
Il a fallu qu'un journaliste ou une journaliste courageuse couvre cet élément et qu'elle décide plutôt de mettre ça sur un des médias les plus puissants du monde pour que ça fasse l'effet nécessaire. C'est encore une fois l'hypocrisie dont je parlais tout à l'heure. Il est important de savoir que il y a beaucoup d'Africains dans les pays arabes qui sont simplement maltraités et pourtant c'est des choses qui sont connues. Et malheureusement, encore une fois, les gens font toujours une analyse comparée en disant entre cette difficulté de dignité à laquelle nous sommes exposés et la précarité de la vie au quotidien dans nos pays, probablement que cette situation peut être acceptable, alors qu'il n'y a rien d'acceptable lorsque la dignité humaine est touchée. Je pense encore une fois, et je l'aurais dit, la place des Africains est en Afrique. Il nous appartient d'adopter des politiques publiques et de donner une véritable chance à nos enfants pour qu'ils puissent se développer chez nous.
Et que dire de l'Union européenne qui a financé la Libye pour ça? On parle des 200 millions, n'est-ce pas, d'euros qui sont financés par l'Union européenne à la Libye afin que celle-ci puisse bloquer les migrants.
Les Européens essaient de résoudre leurs problèmes et ils feront ainsi de manière indéfinie. Il nous appartient à nous de résoudre les nôtres. Et je crois simplement que aujourd'hui ils ont mis un frein physique à la pénétration sur le territoire européen. C'est à nous de pouvoir nous rendre compte que le danger que prennent nos propres enfants est tout simplement insensé et il faut trouver des mécanismes pour être en mesure de les garder sur le continent et leur donner des opportunités. Je voudrais terminer en vous disant qu'en même temps qu'on refuse que les plus faibles d'entre nos frères aillent en Europe, on essaie de tirer les plus grands cerveaux. La plupart des grands cerveaux africains sont aspirés en Europe avec fierté, sans aucun problème. Et ceux qu'ils refusent, ce sont les cerveaux les plus faibles, ceux qu'ils pensent qu'ils n'apporteront pas grand-chose en termes de valeur ajoutée dans leur communauté.
Vous avez évoqué l'hypocrisie. Est-ce que l'Union africaine n'est pas hypocrite lorsque elle admet à son sein des pays où l'esclavage est pratiqué? C'est comme la Mauritanie. Vous vous rappelez des activistes des droits humains qui ont été vilipendés tout simplement parce qu'ils ont dénoncé ces phénomènes en Mauritanie. La Mauritanie, c'est un État membre de l'Union africaine, mais les pays africains n'ont rien, ils n'ont jusque-là pas eu le courage, n'est-ce pas, de dénoncer ces phénomènes en Mauritanie.
Le politiquement correct fait des fois que les gens agissent en dehors de toute conscience. C'est totalement inacceptable. Tout à l'heure, vous parliez de l'Union africaine et de l'Union européenne. Vous savez que l'Union africaine est financée par l'Union européenne. À partir du moment où même votre fonctionnement est financé par un tiers, comment voulez-vous penser que vous pouvez avoir une autonomie de réflexion? La deuxième des choses, il faut quand même reconnaître que de manière globale, les résultats de gestion publique en Afrique sont catastrophiques et il y a une honte de manière globale à regarder nos dirigeants se mettre en face de l'Union européenne et ne pas être en mesure d'ouvrir la bouche pour réclamer.
Merci, Maître Mandjolo. Il y a une réflexion qui vous est adressée. On va l'écouter.
Moi, c'est Toba depuis l'Angola. C'est une distraction pure et simple, car il coupe seulement les branches et laisse les troncs ainsi que les racines. Il faut attaquer le mal par la racine. Pour l'état de fait, c'est l'injustice et les inégalités sociales qui créent le terrorisme. Comment pouvez-vous expliquer un Congolais de la RDC est plus libre à l'étranger plutôt que sur son propre pays? À l'étranger, les Congolais organisent des marches, des manifestations, etc. Ils sont autorisés et encadrés par les services de sécurité. Mais quand on organise ça ici en RDC, le gouvernement taxe les jeunes des délinquants, incivistes, terroristes, rebelles, avec cette discrimination, cette injustice, cette inégalité sociale. Comment pouvez-vous fermer la route de l'immigration illégale? Ne découragez pas les jeunes qui veulent.
Maître Guillaume Mandjolo.
Oui, bon, je comprends, c'est une frustration tout à fait légitime, parce que lorsqu'on a des soucis dans son propre pays, effectivement, on peut expliquer ça, je comprends très bien. Mais simplement pour revenir des mots par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, et finalement, votre question n'a même pas d'intérêt, parce que il me semble qu'à la fois M. Al-Gitenge, M. Timothée et moi-même parlions quasiment de la même chose. On n'a pas été en dissension ou en contradiction. Et pour appuyer ce qu'on a dit, il appartient à l'Afrique de pouvoir s'organiser d'abord elle-même. Je suis très malheureux puisque j'ai participé tellement à des sommets, et que finalement, il n'y a pas de résultats, et surtout lorsqu'il se concerne l'Europe et l'Afrique. Vous avez épinglé la situation de la traite négrière. Vous savez qu'il y a eu la controverse de Valladolid qui fixait que les Noirs, ce n'était pas un être humain au départ de la Genèse 9, 25 et suivant. Hein? Et par la suite, il y a eu les codes noirs. Nous sommes le seul peuple qui a été sensibilisé. Ne pas confondre avec ce qui se passe en Mauritanie. Ce qui se passe en Mauritanie, dans la plupart des populations sur la planète, ça s'est passé, ça se passe toujours. Mais simplement, lorsqu'on a sensibilisé sur la planète que l'être noir n'était pas un être humain et qu'on a créé les races sur cette base-là, en mettant en bas de la hiérarchie, ça pose un problème. C'est pour ça la question que j'ai posée ici. Pourquoi ça se fait que les mêmes conditions, c'est-à-dire que les mêmes exactions qui sont subies, qu'une population subit, notamment en Syrie, on trouve à lui ouvrir les portes au niveau de l'Europe, mais les populations africaines...
Difficilement.
Non. Quand on accueille 1 million de personnes, ça n'a rien à voir avec les 2-3 000 dont on parle. 1 million de personnes, et puis il y a eu une sorte de réunion au niveau de l'Union européenne avec les discussions, comment est-ce qu'on partage l'arrivée des Syriens. Ça n'a jamais été le cas avec les Africains. Jamais. Jamais. Alors, il faut se poser la question, pourquoi pas avec les Africains? Donc, cette histoire de controverse de Valladolid et par la suite avec les codes noirs instaurés par Colbert et Louis XIV, ça a été essentialisé. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore expurgé des têtes des gens ni des textes. Et par conséquent, ces regards, et il faut dire aussi ce que tous ceux avec qui on est en train de discuter maintenant ont épinglé, les stéréotypes qui nous sont placardés, cette incapacité de se prendre en charge soi-même, d'organiser l'enseignement qui permette à ce que les gens puissent produire ici. Parce que des intelligences, il y en a, mais on ne met pas le moyen. Regardez tout ce qu'on investit dans le folklore par rapport à ce qu'on investit dans l'éducation. Il y a un problème. Et ça, c'est quasiment toute l'Afrique, dans la moindre mesure, au niveau de l'Afrique anglophone. Donc, ça pose un problème de crédibilité. Ce qui fait que toutes ces messes-là sont des messes vaines. Il n'y a rien qui s'y passe. Ça peut faire plaisir aux gens qui ont envie d'amener des caméras et tout pour regarder, mais in fine, il n'y a rien. Parce que j'attendrai de l'Union européenne quelque chose lorsqu'on nous dira que la discussion portera sur les transferts des technologies, les transferts des compétences. C'est-à-dire la France dit, voilà, je viens en RDC, je vais ouvrir des centres de recherche appliquées fondamentales dans toutes les universités. Alors, en ce moment-là, on aura dit, voilà, l'aide est arrivée. Tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, il n'y aura jamais d'aide. C'est un bluff monumental. Parce que les jours où ils instaurent ces centres de recherche appliquées fondamentales, ce qui fait qu'aucune matière première ne sortira de la RDC sans qu'elle soit transformée. Et par conséquent, on l'achètera à partir d'ici, c'est nous qui fixerons les prix. Or, pour l'instant, vous voyez très bien que ce soit le pétrole, le cuivre ou le reste et tout ça, c'est fixé soit à Londres, à Paris ou à Genève.
Et au-delà de tout ça, est-ce qu'il ne se pose pas un problème de démocratisation des régimes africains? Parce que les Européens estiment que pour que les choses marchent en Afrique, cela doit passer par des régimes démocratiques.
Attention aux amalgames. Vous avez des pays qui ont vécu dans les grandes dictatures. Je ne suis pas pour la dictature, mais simplement regardez la situation de la Chine. La Chine s'est développée, elle est encore sous dictature jusqu'à aujourd'hui. Il faut faire la part des choses. Kadhafi avait une dictature, mais les pays allaient autrement. Donc, il faut pas des dictatures, mais simplement ne confondons pas, soi-disant, l'apport de la démocratie totale, parfaite, au même niveau que les États-Unis d'Amérique et que l'Europe, va amener le bonheur. Non, c'est pas ça du tout.
Et donc, la démocratie, c'est pas une panacée.
Non, c'est pas une panacée. Ça ne résout pas les problèmes. Merci. C'était mieux, mais ça ne résout pas les problèmes. Ce qui Merci. Est important, c'est l'éclairage, comme dit Héraclite, l'enseignement et le soleil pour ceux qui les reçoivent.
Merci.
Tant qu'on l'a pas, on ne pourra pas avancer.
Monsieur Timothée Soucha, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Bukavu, vous.
Abamungu Balibouza depuis Bukavu. Je vois mal ces leaders mettre fin au terrorisme, passeurs et trafiquants des migrants. Si en réalité ces leaders veulent instaurer la paix en Afrique et lutter contre le trafic des migrants, ils devraient d'abord résoudre les causes de ces phénomènes. Il y a migration clandestine dans le monde. Pourquoi? Parce que les économies des pays d'origine sont faibles et par conséquent incapables de prendre en charge la jeunesse. Incapables pourquoi? Suite à une mauvaise répartition des richesses et des détournements des deniers publics par la classe dirigeante. Il y a migrants clandestins parce que dans leurs états d'origine, il y a des guerres. Toutes ces guerres sont conséquences de frustrations nées de l'envie exagérée du pouvoir des uns au détriment des autres et de l'exclusion de certains groupes politiques ethniques à accéder au pouvoir.
Monsieur Timothée Soucha.
Oui, mais l'auditeur de Kivu est pratiquement, je l'appellerai membre à part entière de cette émission, parce que la qualité, le problème de passer sa vente, c'est ce que j'avais dit tout à l'entrée. Le problème, c'est qu'il y aura toujours des migrants, il y aura toujours des passeurs, tant qu'il y a des mauvaises politiques, tant qu'il y a des mauvaises gestions à la tête de nos États. Et pour de nouvelles politiques en Afrique, il faut de nouvelles visions, et pour avoir de nouvelles visions, c'est pas avec cette classe politique. Nous devons renouveler la classe politique. Ça, c'est important. Et je me pose des questions. Si les coltans, si le pétrole, les diamants, toutes les richesses, les minéraux, nous avons au Congo 1 000 fois minéraux et précieux, métaux précieux. Si ces minéraux étaient européens, on allait avoir sur place, en Europe, des usines qui créent, qui innovent. Et nous avons tout ça chez nous. On n'a pas de vision. Nous n'avons pas de gens qui encouragent la recherche scientifique. Oui. Les gens vont toujours partir à l'étranger. Ils vont toujours fuir. Ils vont toujours fuir les dictatures. Vous avez, j'ai parlé tantôt de chefs d'État qui veulent se maintenir au pouvoir. Tant qu'il y a cette ancienne classe politique à la tête de nos États, il y aura toujours cette frustration et les gens partiront. Je voudrais vous parler un tout petit élément. Vous savez, il n'y a pas que la transformation, le transfert de la technologie entre les pays industrialisés et l'Afrique. Il y a aussi la création. Nous avons dans ce pays-là, chaque fois qu'on va sur Internet, il y a une dame qui a innové pour un policier, un régulateur de route et un robot qui régule la route. Ça, c'est des recherches. Nous avons des jeunes femmes qui ont fait des États-Unis, qui sont déjà ingénieurs. Il y a des gens qui ont beaucoup de compétences en termes de mathématiques, de physique, de chimie. Et dans notre pays, on n'encourage pas la recherche scientifique. C'est par là qu'on peut arriver à gérer le pays, à innover et créer de nouvelles politiques. Et lorsque je reviens aux bonnes dictatures, entre guillemets, les dictatures qu'il y avait en Libye, qu'il y a en Chine, sont des dictatures qui sont totalement différentes à celles qu'on observe en Afrique noire. Parce qu'en Afrique noire, c'est quoi? C'est le bradage des ressources de l'État. des dirigeants qui s'enrichissent eux-mêmes, qui s'habillent bien, qui mangent bien, qui construisent et qui mettent les restes des fonds à l'étranger. Et je finis par un tout petit élément. Vous savez, Akitenga parlait comme Maître Manzola parlait de la géopolitique, du géostratégique. Un élément dans des négociations comme c'est au sommet, c'est avant tout l'intérêt. L'intérêt. Et pour défendre ces intérêts, il faut connaître, il faut savoir ce qu'on a, la valeur de ce qu'on a dans le répertoire congolais. Nous avons combien de métaux, nous avons quoi et quelle qualité. Vous savez qu'en 2007, le gouvernement congolais, à travers le ministère de Mines, a vendu un carré minier à 6 millions de dollars au Katanga. L'acheteur, quelques jours plus tard, à 6 millions de dollars. Il a vendu à 6 millions de dollars. Il a cédé cette partie de terre à un investisseur. L'investisseur l'achète et quelques semaines plus tard, il a vendu à 90 millions de dollars. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est-à-dire que même au niveau de nos ministères, on n'arrive pas à capitaliser les compétences pour que les Congolais, l'État, les institutions congolaises puissent avoir un répertoire de la valeur, de la qualité et de l'étendue de nos minéraux et de nos ressources. C'est cela le problème. Et donc, ceux qui viennent en négociation sont ceux qui nous disent à travers les satellites que vous avez tel minéraux à tel endroit, de telle quantité et telle qualité. Et c'est eux-mêmes qui fixent le prix. Merci. Et donc, nous venons en position de faiblesse. Voilà le vrai problème de bradage des ressources de nos pays.
Merci, Timothée.
Et l'ignorance même de la qualité, de la quantité de ce que nous avons.
Merci, Timothée. Monsieur Alkitenge, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Lubumbashi.
Chokumwezirwa à Lubumbashi. C'est bon bien de lutter contre les passeurs et les trafiquants de migrants. Mais si l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et l'ONU ne s'investissent pas à fond à résoudre le problème à la base de ces déplacements massifs des Africains vers l'Europe, je ne vois pas les recommandations ici de ces sommets aboutir aux résultats escomptés. Car l'Union européenne, l'Union africaine, entretient elle-même la misère que différents dirigeants africains imposent à leur peuple. Si l'Union africaine se mettait à décourager les dirigeants dictatoriaux pour la mauvaise gouvernance, à sanctionner les gouvernants qui se livrent dans la violation des droits civils et politiques de leurs administrés, aucun Africain envierait trouver refuge en dehors de l'Afrique.
Monsieur Alkitenge.
Monsieur Mouizira se trompe malheureusement parce que il n'est dans l'intérêt ni de l'Union européenne ni des États-Unis que de venir arranger des choses en Afrique, parce qu'en plus ce n'est même pas leur mandat. Ça c'est et ça restera le mandat malheureusement de nos dirigeants politiques. Et c'est vers eux que nous devons nous tourner pour chercher des solutions et eux, dans un exercice d'équilibre, être en mesure de trouver les compensations avec les autres. Il faut comprendre une chose et elle est très simple. Aujourd'hui, la population occidentale est très vieillissante. Et malheureusement, la croissance démographique africaine est perçue par eux comme étant un danger. Nous sommes aux alentours de 3%. Il faut savoir que l'Afrique, c'est près d'un milliard de personnes aujourd'hui. Et demain, nous serons bien plus nombreux. L'Europe et l'Occident en général ont une peur bleue de l'hégémonie africaine. D'autant plus d'ailleurs que les Africains apprennent de plus en plus, accroissent leurs capacités. Et si nous investissons dans le secteur de l'enseignement chez nous, demain nous serons numériquement assez nombreux et intellectuellement suffisamment pointus pour les mettre en danger. Et ils voient ça.
Et donc cela n'arrangerait pas les Européens.
Mais non. Aussi simple que ça. Et eux, ils le savent. Et donc, il nous appartient à nous.
Et donc, demander aux Africains de pouvoir s'organiser, c'est un vœu pieux parce que ils ne sauront pas le faire parce que ils seront combattus par
ces
puissances occidentales.
J'ai fait tout à l'heure allusion à la géopolitique, à la géoéconomie. Je pense simplement que la mécanique et la cinématique est tout à fait simple. Les peuples congolais, les peuples africains doivent pousser leurs dirigeants se retrouveront en situation de négociation positive vis-à-vis des tiers, les uns et les autres se battant pour être en mesure de garantir leurs intérêts. Ce monde est un monde d'intérêts et rien d'autre. Et
je pense... Vous avez évoqué ici, dans cette émission, l'exemple de la Libye. Kadhafi a été aussi combattu parce que, à un certain moment, il pensait qu'il pouvait aider les Africains à pouvoir, se départir, n'est-ce pas, du carcan occidental. Mais il a été combattu, il a été tué. Est-ce que cela n'a pas traumatisé les autres présidents qui auraient aussi peur, n'est-ce pas, de connaître les sorts de Kadhafi? S'ils essaient de sortir du carcan ou du dictat européen.
Kadhafi a été tué en grande partie de sa faute, parce que il a lui-même fendu sa propre nation, dans la mesure où il a favorisé une partie par rapport à l'autre, et donc il a donné une opportunité à ses ennemis à trouver un terrain sur lequel ils pouvaient bondir. Et ça, c'est la faute, l'erreur de beaucoup de pays africains. Ça veut dire qu'en fait, ils agissent avec une certaine injustice simplement inacceptable, qui fait que justement, au sein des pays, on trouve des ballons d'essai capables de pouvoir donner un prétexte à ceux qui veulent détruire nos nations. Je pense qu'il est important pour nous de nous rendre compte qu'un pays a une obligation d'équité. À partir du moment où les gestionnaires sont équitables, à partir du moment où les ressources sont distribuées au travers du travail de manière équitable, vous avez peu de chances de pouvoir avoir à l'intérieur des zones qui peuvent accueillir vos ennemis. Et je pense que la plupart des dirigeants africains ne le comprennent pas encore.
Et à votre avis, qu'est-ce qui pourrait changer dans la gouvernance des pays africains après ce sommet d'Abidjan ?
Je ne crois pas que ce sommet d'Abidjan va changer les choses de manière égale dans tous les pays. Tout à l'heure, mon frère faisait allusion au président ghanéen qui a prononcé un discours très intelligent, un discours très responsable. Mais après, il faudra qu'il le fasse suivre d'action et que d'autres présidents le suivent. Et je crois simplement que la géométrie avec laquelle ce forum va avoir des impacts sur le continent est tout à fait variable en fonction de la nature des régimes et de la nature des dirigeants.
Maître Mandiolo, les pays africains pourraient-ils plutôt se conformer aux différentes recommandations, notamment éducation, formation, paix, sécurité, investissement, migration et mobilité?
Bon, il me semble que c'est juste, ce sont des vœux pieux, ça va se passer comme ça, on va en parler. C'est pas la première occasion, on en parle. Aux Nations Unies, on en parle en permanence. Il y a eu quasiment tout, l'Assemblée Générale, deux, trois fois de suite, a parlé de ça, la sécurité internationale, la lutte contre l'immigration, la lutte contre le terrorisme, on en a parlé. On n'a pas résolu le problème. On a vu comment on a résolu le problème en Irak, en Afghanistan, en Libye et en Syrie aujourd'hui. On connaît les conséquences. Je pense qu'on doit déplacer le curseur. En ce qui nous concerne, il ne faut pas regarder les choses en ces termes-là. Il faut revenir aux fondamentaux. Il est recommandé aujourd'hui aux Africains de pouvoir s'instruire au grand maximum et se former au grand maximum. Mais cette formation doit être interne. On doit créer des structures, des formations pointu au niveau de l'Afrique, investir là-dedans au grand maximum. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a peur de la Corée du Nord? Parce qu'ils ont la capacité de pouvoir fabriquer par eux-mêmes la bombe nucléaire. C'est pas une technologie qui vient d'extérieur, c'est intérieur. Ils font des essais, ils font un travail intérieur et ils font peur à tout le monde. Mais bon, maintenant, si c'est destiné à pouvoir simplement faire peur et puis même tout en torturant la population, c'est pas intéressant. Dès que vous mettez en devoir de pouvoir gérer l'intelligence, maîtriser l'intelligence, alors à ce moment-là, vous comptez sur la planète. Tant que vous n'avez pas maîtrisé l'intelligence, vous êtes juste des consommateurs de produits d'autrui et vous n'êtes rien du tout. Pour juste dire un mot par rapport à ce que M. Timothy disait,
en conclusion,
nous avons explosé les tableaux de Mendeleïev, les tableaux périodiques. Toutes les matières premières aujourd'hui qui sont sur le tableau de Mendeleïev se retrouvent en RDC, des excédents qu'on ne connaissait pas avant. Et par conséquent, nous avons tout intérêt à avoir les centres de recherche appliqués et fondamentaux ici pour pouvoir transformer.
Timothée Soutcha, en conclusion.
En conclusion, nous devons voir dans quelle mesure, avant d'avoir de nouvelles politiques, savoir changer les actions. Parce que j'ai toujours dit, suite à ces élections, les institutions n'accomplissent pas en elles-mêmes du miracle. Ce sont des hommes qui sont appelés à les amener, à les conduire. Donc, tant qu'il n'y aura pas de volonté dans le chef des acteurs politiques, des dirigeants, nous n'aurons rien, nous n'aurons pas de réforme, c'est pour ça. Donc il faut réformer la classe politique aussi bien au Congo que dans les pays bavards et dans l'Afrique noire. Et deuxième élément, c'est qu'il faudrait encourager, lorsqu'il y aura de nouveaux dirigeants, encourager la recherche et l'enseignement, l'éducation, afin que nous puissions innover, c'est pas attendre toujours
les
transferts de technologie. Nous pouvons faire la roue, l'inventer la roue chez nous, parce que nous avons
plus. Merci Timothée. Merci Al-Kitenge, votre conclusion.
Ma conclusion est très simple, c'est que l'émigration, il y en aura toujours, du rural vers l'urbain en interne, mais également de l'Afrique vers l'Occident tant qu'il y aura un différentiel de qualité de vie. Mais je pense qu'il faut stimuler également une migration inverse. Les meilleurs de nos enfants qui sont dans les meilleures universités et qui ont travaillé à l'étranger, il faut les absorber et les attirer ici.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique, à Alain Irung et Donna Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.